Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche de la sexagésime. Donc nous sommes toujours dans ce temps de préparation au carême qui commencera le mercredi des cendres. Je vous ai expliqué la dernière fois, dimanche dernier, que l'idée centrale de la septuagésime, c'est le nouvel Adam qui vient réparer les fautes du premier Adam. Donc le premier Adam nous coupe du bon Dieu par sa désobéissance, par le péché originel. Le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, est rétabli en quelque sorte le cordon ombilical qui avait été coupé entre Dieu et l'homme. Et pour comprendre l'esprit de l'Église pour ce dimanche de la sexagésime, comme très souvent, il faut analyser ces textes à la lumière donnée par les textes du bréviaire. Le bréviaire romain, que le prêtre dit tous les jours, pendant toute cette semaine de la sexagésime, par ces textes, surtout les textes de l'Ancien Testament, qui sont donnés pour les leçons du premier nocturne de chaque jour, eh bien ces textes justement nous aident à comprendre le pourquoi du choix de l'Église pour l'Évangile et l'Épître du jour, du dimanche. Et donc, si la semaine de la Septuagésime expliquait bien sûr le premier péché d'Adam et Ève, la deuxième semaine, la semaine de la Sexagésime, donc qui suit la Septuagésime, nous sommes à 60 jours de Pâques, la semaine de la Sexagésime va analyser, va expliquer, va donner les textes du livre de la Genèse qui correspondent à l'histoire de Noé, donc pour nous aider à comprendre les conséquences du péché d'Adam. Vous connaissez tous cette histoire. Donc, Dieu, voyant que la malice des hommes était grande sur la terre, dit à Noé, « J'exterminerai l'homme que j'ai créé. Faites-moi une arche de bois résineux et j'établirai mon alliance avec vous et vous entrerez dans l'arche. » Et la pluie tomba alors sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'arche flottait sur les eaux qui s'élevèrent au-dessus des montagnes jusqu'à les recouvrir toutes. Tous les hommes périrent, à l'exception de Noé et des siens, qui avaient trouvé un abri. Dieu se souvint alors de Noé, et la pluie cessa. Après quelque temps, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche, il lâcha une colombe qui revint avec une branche d'olivier toute fraîche. Dieu comprit que les eaux ne couvraient plus la terre, et Dieu lui dit, « Sortez de l'arche et multipliez-vous sur la terre. » Et Noé éleva un autel et il offrit à Dieu un sacrifice d'agréable odeur. Et l'arc-en-ciel apparut comme le signe de réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc, l'arche qui va s'ouvrir sur le côté pour laisser passage, donner le passage à la colombe qui va revenir avec finalement avec une branche d'olivier, une petite brindille d'olivier dans son bec, représente évidemment, l'arche elle-même représente l'Église catholique, le bois de l'arche va représenter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'arche qui est ouverte sur le côté pour laisser le passage à la colombe représente le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le cœur de notre Seigneur est ouvert sur le côté, de la même façon l'arche qui représente notre Seigneur, est ouverte sur le côté pour laisser passage à la colombe, exactement comme au moment de la création d'Adam, Dieu va ouvrir le côté d'Adam pour donner naissance à la première femme, Ève. Donc il y a des textes admirables qu'on trouve notamment dans les prières de consécration des saintes huiles du jeudi saint. Je vais vous en donner quelques-unes pour vous aider à comprendre les textes liturgiques. Elles sont magnifiques. La juste colère du Créateur submergea le monde coupable dans les eaux vengeresses du déluge. Noé seul fut sauvé dans l'arche, puis l'admirable puissance de l'amour lava l'univers dans le sang. Donc c'est le bois qui à son tour sauve le monde. Seul, dit l'Église en parlant de la croix, tu as été trouvé digne d'être pour le monde naufragé l'arche qui l'achemine vers le port. Le port, évidemment, c'est ce salut. D'autres prières splendides. Ô Dieu, qui en lavant dans les eaux les crimes du monde coupable, fit voir dans les ondes même du déluge une image de la régénération où l'opération mystérieuse et sanctifiante d'un seul et même élément devait marquer la fin des vices et le commencement des vertus. Jetez les yeux sur la face de votre Église et multipliez en elle vos interventions régénératrices en ouvrant par toute la terre la fontaine baptismale qui doit renouveler les nations. Lorsque les crimes du monde eurent été expiés par le déluge, une colombe vint annoncer la paix. La branche d'olivier, c'est un symbole de la paix. Une colombe vint annoncer la paix rendue à la terre par le rameau d'olivier qu'elle portait, symbole des faveurs, que nous réservait l'avenir. Cette figure se réalise de nos jours, où l'onction de l'huile, après que les eaux du baptême ont effacé tous nos péchés, vient donner à nos visages beauté et sérénité. Donc là, le texte fait allusion surtout à l'huile, l'huile du Saint-Crème et l'huile des catéchumènes. Donc, le rameau d'olivier de la liturgie, donc, dit la liturgie, figure par sa frondaison l'heureuse fécondité que Dieu a accordée à Noé sortant de l'arche. Et enfin, l'église de samedi saint reprend les mêmes idées dans d'autres prières splendides, je vous en lis une. Puisse le monde expérimenter et voir le redressement de ce qui était tombé, le renouvellement de ce qui avait vieilli, et toutes choses rétablies dans leur intégrité première par celui-là même par qui elles avaient commencé d'exister. Encore une fois, toujours la même idée, le nouvel Adam vient réparer les fautes du premier Adam. Alors voyons un petit peu rapidement, par manque de temps, il faudrait prêcher pendant des heures pour expliquer les textes liturgiques d'un dimanche. Voyons rapidement les deux textes, ou au moins certaines parties des deux textes de l'Épître et de l'Évangile. L'Évangile choisi pour ce dimanche de la Sexagésime, c'est l'Évangile du semeur. Vous connaissez tous cette magnifique parabole. Celui qui sème alla donc semer sa semence. Et tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, ayant levé, elle porta du fruit au centuple. Il est évident qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter ce texte. Donc notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va donner le sens moral, le sens anthropologique de ce texte. Il va expliquer aux apôtres qui demandent à notre Seigneur, expliquez-nous ce que veut dire cette parabole. Et notre Seigneur va leur expliquer. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Mais le diable vient et il enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient ne soient sauvés. Donc ceux qui, la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle parle aussi à ceux qui sont sur la pierre. Ils reçoivent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de la tentation, ils se retirent. Enfin, la parole tombe aussi parmi les épines, et ce sont ceux qui ont compté la parole, mais qui s'en vont sans suite étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits. Ceux qui tombent dans la bonne terre, et ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Essayons de creuser un petit peu les explications de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première chose qu'il faut remarquer, c'est une réponse à donner à une objection qu'on entend très souvent. En disant, écoutez-moi, je ne suis peut-être pas la bonne terre, mais je représente la troisième étape, les épines, alors c'est quand même pas si mal que ça, il y a un petit peu d'humidité dans les épines. Donc la graine de la bonne parole du bon Dieu peut germer dans mon âme. Bon, c'est quand même mieux que si la graine était tombée sur un sol dur comme le chemin où rien ne peut pousser. Il faut répondre à ceux qui font cette objection que le résultat est exactement le même. Que la graine tombe sur le chemin, que la graine tombe sur la pierre ou que la graine tombe dans les épines, dans les trois cas, elle ne donne pas de fruits. Et qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande? Notre Seigneur Jésus-Christ exige de chacun d'entre nous un fruit spirituel du travail de sa grâce. Rappelez-vous la parabole qu'il faut mettre en parallèle pour comprendre cette parabole du semeur, à savoir la parabole des talents. Notre Seigneur Jésus-Christ demande une rentabilité en quelque sorte, utilisant un terme moderne, une rentabilité de ses talents. Il a mis 5 talents dans notre âme, il en veut 10 en retour. Il en a mis 2, il en veut 4 en retour. Et s'il n'en avait mis qu'un seul, il exige 2 en retour. La personne qui se contente de rendre à notre Seigneur le talent qu'il avait reçu, eh bien, va essuyer la colère de notre Seigneur. Donc, attention, nous avons donc à répondre à la grâce du bon Dieu pour préparer le terrain de notre âme afin que la graine de la grâce qui tombe sur ce terrain puisse pas simplement tomber, se trouver de la terre, s'enraciner, avoir suffisamment d'humilité pour commencer à donner une petite plantule, mais il faut qu'elle fleurisse et qu'elle donne du fruit. Et nous serons jugés en fonction du fruit qui a été donné. Donc malheur à celui qui s'arrête en route. Alors, les pères de l'Église donnent plusieurs explications. Je peux en donner quelques-unes. On retrouve ces différents pères. Donc le chemin, la graine qui tombe le long du chemin peut représenter par exemple l'infidélité. C'est-à-dire ceux qui justement ne veulent pas rester là où le bon Dieu les veut, mais qui veulent aller ailleurs. Un symbole de l'infidélité de l'âme qui ne suit plus les promesses de son baptême. La graine qui tombe au contraire sur la pierre c'est quoi? La pierre c'est le symbole de l'orgueil. La dureté de la pierre représente la dureté du cœur qui se coupe de Dieu. Le cœur qui se coupe de Dieu ne peut plus recevoir quoi que ce soit de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre et pas d'humilité pour faire germer la graine. Les épines représentent tous les tracas du monde. Quand on a l'esprit du monde en nous, on est tellement tracassé par toutes ces choses du monde qu'on ne peut pratiquement rien faire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les épines empêchent le déploiement de cette graine qui voudrait se développer, donner une belle herbe qui donne des belles fleurs et ensuite du fruit. Rien ne se développe à cause de l'esprit du monde. Les pères ainsi nous font comprendre très nettement que celui qui garde en son cœur l'esprit du monde, l'amour des choses du monde, l'amour des trois concupiscences, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil, ne peut produire de fruits. Et qu'il faut donc lier en quelque sorte ces trois concupiscences par les trois vertus fondamentales de la vertu d'obéissance contre l'orgueil, la vertu de chasteté contre la concupiscence des yeux, et la vertu de pauvreté, pardon, la vertu de chasteté contre la concupiscence de la chair et la vertu de pauvreté contre la concupiscence des yeux. Donc celui qui ne veut pas suivre dans sa vie de tous les jours l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, eh bien ne peut pas lutter contre les concupiscences et donc la graine plantée par le bon Dieu ne va pas pouvoir se développer parce que ces trois concupiscences vont être comme des épines qui vont piquer l'âme de tous les côtés et l'âme ne peut pas se défendre et donc donner du fruit, le fruit que le bon Dieu avait prévu qu'elle donna. Au contraire, quand la parole tombe dans la bonne terre, eh bien, à ce moment-là, elle va donner du fruit. Notez dans d'autres passages parallèles que notre Seigneur parle de gens qui donnent à 30%, à 60% ou à 100%. Et là, on trouve la même idée, attention. Le bon Dieu ne se contente pas d'un 30% de résultat pour quelqu'un qui a une âme qui était supposée donner 60%. Et Dieu ne va pas se contenter d'un 60% de résultat à une âme qui était supposée en donner 100. Si Dieu attendait d'une âme, a prévu qu'une âme donnât 100% de fruits spirituels, eh bien, il attend ces 100%. Il ne faut pas dire au bon Dieu, écoutez, je vous en ai donné 30%, c'est déjà pas mal, contentez-vous de ce que je vous donne. Non, non. Parce que celui qui n'a pas la robe nuptiale, une autre parabole, qui est utilisé comme comparaison pour expliquer celle-là, celui qui n'a pas la robe nuptiale de la charité, eh bien, est jeté dans les lieux des pleurs, dans les lieux des pleurs et des grincements de dents. Donc attention à ces choses. Alors, nous avons tous à rendre, donner du fruit en fonction de ce que nous avons reçu. chacun étant différente, chacun reçoit une grâce de Dieu qui est différente, donc le fruit est différent pour chaque personne, mais nous devons tous transmettre, pas simplement se contenter de pousser, de croître, il faut transmettre, donner du fruit pour les générations suivantes. Le fruit qui est rendu à 30, 60 ou 100% représente la progéniture, si vous voulez, spirituelle que nous devons donner au bon Dieu. Nous avons, pour ceux qui sont mariés, nous allons avoir des enfants, le bon Dieu va nous donner des enfants, un certain nombre d'enfants pour chaque famille catholique, et puis il va falloir transmettre à ces enfants nos convictions. Et je vous l'ai déjà dit souvent, c'est le drame du monde actuel. Je pense que le grand drame après les années 2000 surtout, c'est l'arrêt de la transmission. Les parents catholiques ne transmettent plus. Il est très rare, malheureusement, dans les milieux catholiques, de voir des parents qui ont compris l'importance de cette transmission et qui ont transmis à leurs enfants pas simplement les bonnes mœurs, mais la foi catholique avec toutes ses conséquences. La plupart du temps, quand je demande aux parents catholiques qui sont encore vaguement catholiques, je ne parle pas des catholiques convaincus, mais en général, les catholiques qu'on rencontre un petit peu ici, surtout dans le milieu où je suis, dans le milieu actuellement, j'habite près d'Albi, là, dans le milieu paysan, très souvent les gens ont encore la foi, ils sont contents de voir un prêtre en soutane, mais quand je leur demande, mais dis donc, vos enfants, ils ont conservé la foi, ils ont tout envoyé promener. Il n'y a plus un enfant qui a gardé la foi. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas pu transmettre. Rappelez-vous, les trois choses qu'il faut transmettre, j'ai expliqué ça très souvent parce que c'est très important, le magistère, le ministère, le gouvernement. Le magistère, il faut transmettre, si vous voulez, la doctrine, de donner à nos enfants le goût de l'étude. Le goût de l'étude a commencé par l'étude du catéchisme, puis le ministère, c'est-à-dire donner à nos enfants le goût de la prière, le goût de la vie spirituelle. Si nous ne sommes pas capables de transmettre à nos enfants l'amour de la prière, eh bien, ils vont se dessécher, arrêter de prier. Et sans la prière, il n'y a plus d'énergie pour faire fonctionner l'âme correctement. Et enfin, il faut gouverner. Magistère, c'est l'étude. Le ministère, c'est la sanctification. Et le gouvernement, c'est guider les âmes, garder les âmes dans le bon chemin qui mène au ciel. Est-ce que j'ai appris à mes enfants à se gouverner correctement ? Et n'oublions pas, j'ai expliqué ces choses bien souvent, j'y reviens parce que c'est capital, la vertu spéciale que le bon Dieu nous demande d'inculquer à nos enfants pour pouvoir avoir, garder ce gouvernement de notre âme, c'est la vertu d'obéissance. J'ai souvent dit, je répète toujours les mêmes choses, mais je pense que c'est nécessaire, quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir sera quelqu'un qui sera incapable de gouverner. Étant incapable de gouverner, cette personne sera incapable de diriger quoi que ce soit, de commander. Pour ça que la plupart des hommes dans le monde moderne sont devenus des nouilles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Et n'ayant jamais appris à obéir, ils sont incapables de gouverner quoi que ce soit. Il faut impérativement que nous transmettions justement à nos enfants cet amour de l'étude, cet amour de la vie spirituelle, pour qu'ils restent dans le bon chemin qui va au ciel. Le bon Dieu, encore une fois, exige que nous donnions du fruit, c'est le symbole, c'est 30, 60 ou 100%. Si ce fruit manque, eh bien, à ce moment-là, le bon Dieu va nous demander des comptes très forts de ce qui s'est passé. Ceux qui tombent dans la bonne terre sont ceux qui ont écouté la parole avec un cœur bon, excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Ce fruit qui est porté par la patience, c'est quoi? C'est la transmission à nos enfants des convictions de la foi catholique. Il y a également, dans ce dimanche de la Sexagésime, un très long texte, de l'épître, texte qui est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11 et chapitre 12, donc il est très long, je n'ai pas le temps de l'expliquer complètement, donc ça explique toutes les vicissitudes qui sont arrivées, le malheur qui sont arrivés à saint Paul. Donc il a tout eu, le pauvre vieux, on voit bien, ce pauvre évêque a eu tous les malheurs du monde qui se sont accumulés sur son âme, et malgré ses malheurs, il a continué à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout eu. J'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, plus des coups sans mesure. J'ai été souvent en danger de mort. J'ai reçu les Juifs 5 fois, 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verre. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé un jour et une nuit au fond de la mer. J'ai été souvent en voyage, dans les périls, dans les fleuves, dans les périls provenant des voleurs, des périls de la part de ma nation, des périls de la part des païens, des périls dans les villes, des périls dans les déserts, des périls dans la mer, des périls parmi les faux frères, le travail, la fatigue, l'éveil, la faim, la soif, les jeûnes, le froid, la nudité. Il a tout eu. Et pourtant, il a continué au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, lorsque nous nous décourageons, ben je crois que c'est une bonne chose pour nous, quand on commence à se décourager, de relire cette épître de Saint Paul aux Corinthiens, donc la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Vous verrez que nous verrons tous, et voilà pour moi aussi, que nos petites misères à nous sont quand même bien, peu, bien petites, en comparaison avec les misères que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu voir, a voulu que Saint Paul passe, il a voulu que Saint Paul passe par toutes ces misères. Mais le point qui me semble le plus important dans ce long épître de Saint Paul, c'est la fin, la finale de l'épître. Donc Saint Paul avait une croix très lourde à porter, dont il ne dit pas grand-chose, mais il avait cette croix. Il dit, de peur que la grandeur de toutes ces révélations qu'il avait reçues du bon Dieu, des grâces extraordinaires, il avait littéralement vu le ciel, si vous voulez, de l'intérieur, toutes ces révélations, la grandeur, de peur que la grandeur de ces révélations, pardon, ne l'enorgueillisse, il lui a été donné un aiguillon dans sa chair, un ange de Satan pour me souffleter, dit-il. Quel est cet aiguillon dans sa chair? Vraisemblablement une très forte tentation contre la pureté récurrente qui revenait tout le temps. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce vous suffit, car la force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses afin que la force de Christ habite en moi. » Le grand Saint Paul, un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, le cofondateur de l'Église avec Saint Pierre, qui demande au bon Dieu, s'il vous plaît, mon Dieu, délivrez-moi de cette tentation que j'ai. Et qu'est-ce que répond notre Seigneur Jésus-Christ? Ma grâce vous suffit. La grâce que je vous donne est suffisante pour vous aider à lutter contre ces tentations. Alors si Saint Paul n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait, qu'en est-il de nous, mes bien chers frères? Qu'en est-il de moi? Nous sommes beaucoup moins exigeant parfois que Saint Paul, on demande des choses peut-être plus simples. Seigneur, Seigneur, délivrez-moi de cette tentation, délivrez-moi de ce problème, délivrez-moi de cette croix. Ma grâce vous suffit. Si le grand Saint Paul n'a pas pu obtenir du bon Dieu ce qu'il voulait, parce que ce qu'il voulait ne correspondait pas à ce que le bon Dieu voulait pour lui, eh bien ne soyons pas étonnés, eh bien chers frères, si vous et moi, il nous faut passer par des croix assez importantes parfois. Le bon Dieu pourrait répondre à toutes nos prières, mais il demande un moyen de sanctification très précis pour nous. Et dans certains cas, il doit répondre non. On oublie toujours ces choses-là. Ah, mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai fait des neuvaines et j'ai demandé des tas de choses au bon Dieu et j'ai pas eu de réponse. Mais bien sûr que vous avez une réponse, mais vous l'avez mal entendu la réponse. C'était quoi la réponse, mon père? La réponse était non. Voilà la réponse. Ah, mais je veux qu'il réponde oui. Mais dites donc. Qui êtes-vous pour exiger que le bon Dieu vous donne telle ou telle réponse? On demande quelque chose au bon Dieu et on dit au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Quand on dit au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite, ça veut bien dire que on autorise en quelque sorte le double bon Dieu à nous dire non. Alors, mes bien chers frères, demandons l'aide de Saint Paul, demandons l'aide de ces grands saints du début de l'histoire de l'Église, qui ont fondé l'Église, et demandons l'aide d'une autre très grande sainte, la plus grande sainte de l'Église après notre Seigneur, notre Sainte Vierge Marie, qui ne s'est jamais, jamais, jamais découragée. Supplions-la, demandons-lui avec humilité qu'elle nous obtienne ces grâces de lumière, ces grâces de persévérance, qu'elle nous aide à lutter contre l'infidélité, lutter contre l'orgueil, lutter contre l'esprit du monde, pour que nous puissions donner, quand le bon Dieu veut du 30%, que nous donnions du 30%, s'il veut du 60%, du 60%, et s'il veut du 100%, que nous donnions du 100%, sans poser trop de questions, bon Dieu. La très sainte Vierge Marie a accepté toutes ses croix. Quand Vierge Siméon lui a dit, alors qu'elle venait avec toute heureuse pour présenter son enfant au temple, et que le vieillard Simon lui a dit « Un glaive de douleur va vous transpercer l'âme », elle a accepté. Elle n'a peut-être pas tout compris, elle n'a vraisemblablement pas tout compris, elle gardait toutes ces choses pour les méditer dans son cœur, dit l'évangile selon Saint Luc. Mais l'accepter. Alors nous aussi, mes bien chers frères, acceptons toutes ces croix. Demandons les forces, les grâces dont nous avons besoin pour continuer de porter nos croix avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.